Jules-Marie, Roger la honte. Au coin de la ruelle du Montalet, qui descend au lac et à deux pas du bois de ville d'Avray, s'élevait une maison de campagne, fraîche et coquette au possible, derrière ses clématites et ses plantes grimpantes. Vrai nid d'amoureux, qui déteste le bruit, et d'amants égoïstes, pour qui le moment finit à leur amour. La villa Montalet avait été achetée quelques années auparavant par M. Roger Larocque, un ingénieur mécanicien très connu, dont les ateliers de construction étaient rue Saint-Maur et qui avait en outre un appartement particulier, boulevard Malesherbes 117. L'hiver, il habitait boulevard Malesherbes et l'été, il se réfugiait à Ville-d'Avray avec sa femme et sa fille, mais chaque matin, ses affaires le rappelaient à Paris, rue Saint-Maur. Il y déjeunait et rentrait le soir vers 7 heures pour dîner en famille. Le soir où commence notre récit, en juillet 1872, à 8 heures, contre son habitude très régulière, Roger Larocque n'était pas encore rentré. Le dîner était prêt. La lampe suspendue venait d'être allumée dans une ravissante salle à manger communiquant avec une serre et tout encombrée de fleurs. Au salon, dont les fenêtres ouvraient sur une large terrasse, non plus qu'à la salle à manger, personne. Et l'on eût dit, sans les lumières, que cette maison était inhabitée, tant elle semblait calme et comme endormie au milieu des fleurs dans la nuit envahissante. Pourtant, à gauche du salon, deux voix chuchotent. De ce côté se trouve la chambre de Madame Larocque, encore plongée dans la demi-obscurité du crépuscule. Deux voix, l'une superbe, grave et douce, de celles qui font aimer une femme sans la connaître, l'autre enfantine, pareille au son du cristal, appelant le rire, les jeux et l'insouciance. C'est la mère et la fille, Henriette Larocque et Suzanne. Madame Larocque a traîné une chaise longue auprès de la fenêtre entr'ouverte. Elle s'y est assise. Elle a attiré Suzanne auprès d'elle. Elles sont blondes toutes les deux. L'une a 25 ans, elle est en pleine floraison de sa beauté. L'autre a 7 ans et n'est pas encore au printemps de sa vie. Elles se ressemblent. Bien que 8 heures aient sonné et que depuis plus d'une heure, son mari devrait être là, Madame Larocque n'est pas trop inquiète. De quoi s'inquiéterait-elle? Ne sait-elle pas que Roger l'adore autant qu'elle l'aime? Cependant, plus que d'autres jours, elle désirait ce soir-là qu'il ne fût point en retard. Henriette et Suzanne l'attendent avec impatience, et la maison elle-même, avec ses fleurs à profusion, son air souriant de fête, semble étonnée de ce silence et de cette solitude. C'est que justement il y a 7 ans que Suzanne est née. Suzanne, l'unique enfant, l'enfant gâté, l'adoration du père. Et dans les longues heures de la journée, depuis l'avant-veille, Henriette lui fait réciter quelques mots qu'elle lui apprend par cœur et par lesquels Suzanne va souhaiter la bienvenue à Roger dans un instant lorsqu'il entrera. Écoutez la voix grave de la mère et le cristal pur de la petite fille, chuchotant, n'osant parler haut, afin de conserver bien à elle, pour quelques minutes encore, le mystère de leur douce surprise. « Tu n'as pas oublié, cher enfant. Oh non, mère, j'ai rien oublié. Que diras-tu à ton père lorsqu'il t'embrassera ? Je lui dirai... « Père, je t'aime depuis 7 ans. Je t'aime autant que maman. Je sais que tu consacres ta vie à préparer la mienne et que tu te fatigues pour que je sois heureuse plus tard. Mais, père chéri, je ne suis jamais si heureuse que quand tu m'embrasses. Je sais que tu es indulgent pour moi et tous les jours je t'aime davantage parce que tous les jours je vois combien tu es bon. » Si je t'ai fait de la peine, père chéri, c'est sans le savoir, et je t'en demande pardon. Et tu penses ce que tu dis, n'est-ce pas, mon enfant ? Oh, mère, dit la mignonne en jetant les deux bras autour du cou d'Henriette, mais c'est vrai, sais-tu bien que je l'aime autant que toi ? La demie de 8 heures sonna. Henriette eut un geste de surprise. « Ton père ne dînera pas avec nous ce soir, » dit-elle, « viens. Je ne veux pas que tu attendes plus longtemps. » Elles passèrent dans la salle à manger. Madame Larocque sonna pour qu'on servît. Il n'y avait à la villa pour tout domestique qu'un cocher, une cuisinière et une femme de chambre, Victoire, laquelle était au service d'Henriette depuis 2 jours seulement. Le dîner fut silencieux. Malgré elle, un vague sentiment de crainte oppressait le cœur de la jeune femme. À 2 ou 3 prises, Roger s'était trouvé ainsi en retard, mais il avait eu soin de télégraphier. Mais ce soir, rien. Mais pourquoi ? Elles revinrent à la chambre à coucher. 1 heure s'écoula. Roger ne rentrait pas. Henriette rêvait devant la fenêtre, demi-couchée sur la chaise longue. Victoire avait voulu allumer. Elle s'y était opposée. À quoi bon ? Elle n'avait pas envie de lire et il faisait un clair de lune magnifique. Le ciel était d'un bleu transparent, laissant deviner de lointains infinis. 10 heures sonnèrent. « Tu ne dors pas, chérie ?» dit Henriette. « Non, mère, » dit l'enfant, dont les yeux étaient grands ouverts. « Tu veux pas te coucher ?»« Oh non, je voudrais embrasser petit père auparavant. » Henriette, tourmentée, alla s'asseoir appuyée sur le balcon, regardant vers le chemin par où Roger, venant de la gare, avait à coutume d'arriver. Suzanne, auprès d'elle, regardait aussi. La villa Montalais est isolée de Ville d'Avray par des jardins et des arbres. En face d'elle, dans les marronniers et un peu sur la gauche, est une petite maison proprette au contrevent vert, donnant de plein pied sur la rue, alors que la villa, au contraire, est séparée de la rue par une pelouse constamment rafraîchie par un jet d'eau. La maisonnette était éclairée. Les fenêtres ouvertes laissaient voir une chambre meublée d'acajou, ayant une table au milieu et dans le fond une sorte de bureau secrétaire poussé contre le mur. 11 heures sonnèrent non loin de là à l'église du village. « Mon Dieu, » dit-elle, « mais que s'est-il donc passé ?» Et, s'adressant à sa fille, « Tu n'as pas froid ? Tu ne te rendors pas ? Oh non, ma mère, il fait si bon, et je voudrais tant voir petit père. » Dans la maison d'en face, devant les fenêtres, un homme de moyenne taille venait de passer et s'asseyait à son secrétaire qui l'ouvrait. On le voyait distinctement, et Henriette et Suzanne le regardaient. C'était le locataire, le père Larouette. « Notre nouveau voisin est rentré, » dit la petite. L'homme avait tiré de sa redingote un portefeuille gonflé, l'avait vidé et éparpillé devant lui les liasses de billets de banque, des rouleaux de louis, une fortune qu'il se mit à ranger méthodiquement, comptant et recomptant, avec un plaisir visible. Henriette et Suzanne le voyaient de profil, et tel qu'il était placé, Larouette tournait le dos à la porte d'entrée de sa chambre. « Qu'est-ce qu'il fait, notre voisin ?» interrogea Suzanne. « Il compte de l'argent qu'il vient de recevoir, sans doute. » On entendit le premier quart de 11 heures au carillon de l'église. Henriette se pencha sur sa fille et l'embrassa au front longuement. Oh, « Je vais appeler Victoire pour qu'elle te déshabille et te couche, » dit-elle. « Oh, mère, encore un instant, papa ne peut tarder. »« Non, mignonne, il se fait tard, tu serais fatiguée. » Et la jeune femme appuya sur le bouton d'une sonnette électrique communiquant avec l'office et se remit au balcon. Suzanne regardait dans la rue le plus loin qu'elle pouvait voir. Victoire entra. « Allumez une lampe et la veilleuse, » dit Henriette, « puis vous prendrez Suzanne. » Au même instant, La fillette se penchait en dehors du balcon, en battant des mains, riant et appelant dans un cri de joie. « Père, père, nous t'attendons, ah, je suis pas couchée !» Un homme, en effet, remontait la rue à quelques pas de là. Il était de haute stature, coiffé d'un chapeau gris clair et vêtu d'un pardessus d'été, également gris, avec une pèlerine sur les épaules. Au cri de Suzanne, il se jeta dans les marronniers devant la maison. Henriette, en se penchant, l'avait vu aussi. « Roger, Roger, » dit-elle, « pourquoi es-tu en retard ? Oh, dans quelle inquiétude tu nous as mis, si tu savais !» Mais l'homme, qu'il eût entendu ou non, ne répondait rien. Il se coulait maintenant, le dos baissé, dans les arbres, de tronc en tronc, en se rapprochant de la maison de la Rouette. Tout à coup, il eut à franchir un sentier, et la lune l'éclaira encore. « Mais c'est Roger !» murmura Henriette. « Mais que fait-il donc? Où va-t-il » Suzanne, étonnée, se taisait, mais ses yeux suivaient son père avec une curiosité inquiète. Et la mère ne respirait plus, le cœur tordu par une angoisse, les mains crispées au fer du balcon, très pâle, les dents serrées, presque méconnaissables. L'homme dépassa les arbres et pénétra furtivement dans la maison. « Tiens, dit Suzanne, père qui va chez le voisin. » Quelques secondes se passèrent. La Rouette se levait et, debout près de son secrétaire, refermait les tiroirs à clé avec méthode et lenteur. Tout à coup, il se passa derrière lui une chose qu'il ne vit pas, mais que de leur balcon distinguèrent Suzanne et Henriette. La porte du fond venait de s'ouvrir doucement, sans aucun bruit, puisque la Rouette n'avait pas entendu, et un homme, qui paraissait de haute taille, très robuste, apparut soudain derrière lui, tournant le dos à la fenêtre. La moitié du corps projeté hors du balcon, les yeux dilatés, Henriette regardait. Mais qu'allait-il donc se passer là? Est-ce que c'était Roger vraiment? L'homme leva les deux bras, les poings fermés, sur la tête nue de la Rouette. Henriette voulut crier, prévenir, mais une force supérieure à elle-même retint le cri dans sa gorge. Elle n'eut qu'un soupir rauque, une sorte de râle d'épouvante, et dit seulement « Roger, Roger, juste Dieu !» La scène qui suivit ne dura qu'une seconde. Les deux poings levés s'étaient abattus, mais la Rouette, au même instant, se retournait, esquivant le coup. Il jeta un cri, un seul « À l'assassin !» Il eut une courte et atroce lutte. Le chapeau du meurtrier tomba, un chapeau d'été gris orné d'un large ruban noir. La lampe roula sur la table, mais avant qu'elle ne s'éteignît, une brune figure, couverte d'une épaisse barbe très noire, était apparue comme dans un éclair. Du reste, pas d'autre bruit. Les ténèbres s'étaient faites dans la chambre. La Rouette, chétif, tenta de se défendre. Le meurtrier était un colosse. Pourtant, la crainte de mourir décupla les forces de la victime. La Rouette se débattit, essaya de crier. Alors il y eut une vive lumière, puis une détonation sourde, et ce fut tout. Henriette s'était reculée. Ses dents claquaient. De grosses gouttes de sueur mouillaient son front. Elle avait le regard d'une folle. Et elle répétait, haletante, dans un déchirement affreux de toute sa vie, « Roger, se peut-il, lui? C'est horrible !» Et voilà tout à coup qu'au milieu de son égarement, lui vient la pensée de sa fille qu'elle a oubliée pendant les 5 minutes qu'a duré ce triple drame, de sa fille qui, la première, avait reconnu Roger. « Suzanne, dit-elle, mère, » fait une voix très faible derrière elle. Alors Henriette prend l'enfant dans ses bras avec une farouche douleur. « Tu n'as rien vu, » dit-elle haletante dans le désordre de son esprit. « Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Écoute-moi bien et comprends-moi. Il faut que tu n'aies rien vu et rien entendu. »« Non, mère, je n'aurais rien vu, je n'aurais rien entendu. » Ce n'était plus la voix de cristal, pure, argentine et frêle. C'était la voix grave de la mère, grandie soudain par une abominable spectacle, et la fillette distinguait clairement l'avenir. « Tu diras jamais rien, jamais, que sur un ordre de toi, mère. C'est bien. Que Dieu t'épargne la douleur, qu'il me frappe, mais qu'il ait pitié de ta faiblesse et de ton innocence. » Elle ne pleurait pas, seulement des sanglots nerveux, en lui montant à la gorge, l'étouffaient. Elle eut pourtant la force de fermer la fenêtre. Alors, en revenant près de son lit, elle vit que la femme de chambre, muette et consternée, était encore là. Henriette crut qu'elle allait s'évanouir. Elle eut la force de dire « C'est bien, Victoire, je coucherai moi-même Suzanne. » « Mais madame n'a donc pas vu, entendu, là, tout près. »« Quoi, qu'y a-t-il ? Un coup de fusil ou de pistolet ? Vous êtes folle, laissez-nous. »« Mais que madame me pardonne, j'avais cru. » Et Victoire sortit, toute tremblantante. Et Henriette, qui se vit dans son armoire à glace, recula effrayée dont elle se faisait peur. Tout à coup, des gémissements la firent tressaillir. Elle se retourna. Suzanne venait de tomber sur le tapis de la chambre, en proie à des convulsions, se tordant, les yeux blancs, la bouche crispée. Elle se précipita sur l'enfant qu'elle prit dans ses bras, qu'elle pressa contre sa poitrine, la berçant comme lorsqu'elle voulait l'endormir. Elle la caressait de la main, sur les joues, sur le front, sur les yeux. Elle la dévorait de baisers ardents et fiévreux. « Ma fille, ma Suzanne chérie, reviens à toi. Ne pleure pas. Calme-toi, je t'en supplie. N'aie pas peur. Ne suis-je pas là? Ma Suzanne adorée, ne me fais pas de chagrin. » Mais Suzanne, secouée par une attaque de nerfs, n'entendait pas. Alors Henriette mouilla une serviette et tamponna le visage de la petite, le front et le cou. Enfin, elle se calma. Les convulsions cessèrent, mais elle revint à la connaissance. Elle se contenta de regarder sa mère longuement, et, répondant à l'interrogation muette de la jeune femme, « Non, non, père, » redit-elle, « je n'aurais rien vu, non, je n'aurais rien entendu. » Sa mère lui ouvrit les bras en pleurant. Elle s'y jeta, et toutes deux s'étreignirent longuement. Mais la petite fille ne pleurait pas. Elles restèrent ainsi, serrées l'une contre l'autre, frissonnant au moindre bruit, ayant peur, pelotonnées tout au fond de la chaise longue, ayant encore, toujours devant les yeux, le spectacle du meurtre. Soudain, elle tressaille et se lève brusquement, mais Suzanne n'abandonne pas sa mère, dont elle enveloppe la taille de ses petits bras. La grille qui sépare la pelouse de la rue de Versailles vient de s'ouvrir en grinçant. Des pas écrasent le gravier autour du jet d'eau. Une clé grince dans la serrure de la porte d'entrée. « c'est lui !» murmura Henriette. Et Suzanne serre sa mère plus étroitement encore. En effet, c'est Roger Larocque. Henriette a reconnu sa marche. Elle éteint la lampe, laissant seulement la veilleuse allumée, et elle ferme sa porte. Elle tremble que son mari n'entre chez elle. Elles écoutent, effarées, les pas qui se rapprochent, qui montent l'escalier, qui traverse le salon, qui s'arrête. La mère et la fille ne respirent plus. Roger est derrière la porte de la chambre de sa femme. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il veut entrer? Non, il écoute, pour savoir si sa femme est couchée. Henriette, Henriette, dors-tu? Elle n'en garde de répondre, et la mère a mis la main sur les lèvres de sa fille. Roger est persuadé qu'elle repose. Doucement, il s'éloigne, le pas assourdi par le tapis épais. En face de celle de sa femme et de l'autre côté du salon est sa chambre. Il entre, tout bruit cesse, tout semble dormir. Il y a un quart d'heure, elles étaient toutes deux au balcon, heureuses, impatientes de revoir Roger. Et depuis, en un quart d'heure, trois vies bouleversées. Minuit sonne, l'heure lugubre, l'heure des crimes, puis le quart, la demi, puis une heure du matin. Elles sont là, toutes deux, dans un coin, toujours enlacées. Henriette étant Suzanne tout habillée dans son lit, jette sur elle une couverture. Mille pensées folles tourbillonnent dans son cerveau. Que faire? Roger assassin? Oh, mais que va-t-elle devenir? Si elle fuyait avec Suzanne? Mais fuir, c'était accuser, ou du moins c'était éveiller les soupçons. Impossible. Sa vie était là, auprès de cet homme. Cet homme, hier idolâtré, maintenant un monstre. Henriette s'approche doucement du lit et regarde Suzanne. L'enfant a les yeux fermés, Henriette s'imagine qu'elle dort. « Tant mieux, murmura-t-elle. Mon Dieu, veillez sur cette innocente. » Elle entr'ouvre doucement sa porte. Elle écoute, rien. Nul bruit. Elle pénètre dans le salon et fait quelques pas. Soudain, elle s'arrête et s'accroupit derrière le piano. C'est que la porte de la chambre de Roger est grande ouverte. Une lampe est allumée sur un bureau plat, et Laroque, assis, pensif et pâle, a la tête appuyée sur les deux mains. Le chapeau gris à ruban noir qu'elle a vu rouler tout à l'heure dans la lutte avec la victime, Roger l'a posé près de lui. Cette brune figure à barbe noire épaisse, un instant entrevue, elle est là, tout près. C'est la figure de Roger. Elle a tout distingué de l'assassin en un de ses coups d'œil agonisants qui embrassent les plus infimes détails. Roger a encore le pardessus d'été de couleur pâle, avec une pèlerine sur les épaules qu'il avait tout à l'heure, quand il est entré chez la Rouette, un pardessus bien visible dans la nuit. Et le visage de Laroque est bouleversé, son œil est fixe, la barbe est broussailleuse et en désordre. Il a 30 ans, en cet instant, on lui en donnerait 50. Et, détail atroce, près de lui, un revolver à portée de sa main, un revolver de très petit calibre, l'arme qui a servi à triompher des dernières convulsions de la Rouette. Et la lampe éclaire tout cela doucement, dans cet intérieur calme, au milieu des choses qui rappellent tant de joies intimes. Henriette regarde, boit goutte à goutte ce mortel breuvage. Et, tout à coup, elle sent sur ses doigts entrelacés une froide figure tremblante. Elle baisse les yeux. C'est Suzanne qui ne dormait pas, qui vient de se lever et qui, elle aussi, regarde. Accroupie derrière le piano, la tête penchée, immobile et sans souffle, elles ne perdent rien de ce que fait la roque. Celui-ci presse son front de ses mains et tout à coup se lève. Il se met à marcher de long en large dans sa chambre. Sa démarche est incertaine et chancelante comme s'il était ivre. Souvent même, il est obligé de se retenir contre un meuble comme s'il avait peur de tomber. Le voilà debout devant son bureau. Il a la tête inclinée sur la poitrine. Il rêve. Puis ses mains cachent ses yeux. On dirait qu'il pleure. Déjà le remords, sans doute. Ses mains s'abaissent, son bras s'allonge vers le revolver. Il le prend, le manie, le fait jouer. Son regard exprime l'horreur, l'épouvante. Il déboutonne son pardessus, rejette du côté gauche la pèlerine sur son épaule, déboutonne aussi sa redingote et son gilet, écarte ses vêtements, laissant à découvert sa chemise du côté du cœur. Et sa main, sans trembler, appuie sur le cœur le canon du revolver. Tout cela, la mère et la fille le voient. Sur leur front et dans le creux de leurs mains roule une sueur froide. À travers l'obscurité du salon, le regard de Roger s'est dirigé vers la chambre où dort sa femme, où dort Suzanne. Et dans ce regard passe quelque chose d'attendri. Un instant, il hésite. Son doigt presse la gâchette. Une plus forte pression de l'index l'enverrait dans l'éternité. Mais il n'ose pas. Il rejette l'arme sur le bureau. « Le lâche !» murmure Henriette. Et pendant que Roger se rassied et continue de rêver, elle emporte Suzanne évanouie et regagne sans bruit sa chambre. La nuit se passe ainsi. Henriette ne se couche pas. Suzanne est dans le lit, mais la fatigue n'a point de prise sur elle. Jusqu'au matin, ses yeux restent ouverts, conservant une inexprimable terreur. Vers 8 heures, Henriette l'habille. Puis elle chiffonne le lit, les oreillers, pour ne pas éveiller les soupçons de la femme de chambre, pour faire croire qu'elle s'est couchée. Elle-même s'habille. Il faudra bien qu'elle sorte de sa chambre et qu'elle voie son mari, qu'elle lui parle. Elle lui sourira même, afin qu'il ne se doute pas qu'elle a été témoin de son crime. Elle entend Roger qui sort de chez lui. Il traverse le salon, frappe à la porte de sa femme. Elle ouvre. C'est la roque, en effet, souriant, qui entre. Il n'est pas vêtu comme la veille. Ses vêtements gardaient des traces de la lutte. Cela aurait pu le trahir. Non, il est en noir. Roger est de haute taille. Ses épaules larges annoncent une force peu commune, et Henriette regarde à la dérobée ses deux mains courtes de travailleur aux doigts noueux. Ses mains qu'elle a vues hier s'abattre sur la tête de la rouette. Il y a sur l'une d'elles une éraflure profonde, encore saignante, comme celle qu'aurait pu produire un coup de griffe ou d'ongle. La roque n'est pas beau, et sa taille un peu épaisse, son cou enfoncé dans les épaules, ses membres trapus empêchent chez lui toute distinction. Son allure est brusque, son teint est brun. La tête est grosse et puissante. Ses yeux noirs sont doux et rayonnent d'intelligence. Il porte toute sa barbe qui est très noire. La physionomie expressive est très sympathique. Elle indique un homme d'action, comme l'ensemble de la personne indique un laborieux plutôt qu'un rêveur. Ce matin, son teint gris terreux, ses yeux battus, son front ridé accuse une fatigue énorme, des soucis qu'il cache vainement. Il sourit bien à sa femme, mais d'un sourire forcé. Il lui prend les mains, l'attire, se penche pour l'embrasser en disant « Oh, comme tu as dû être inquiète hier, ma chérie, et comme je te demande pardon, oh, c'est ma faute. J'ai eu des affaires qui m'ont retenu très tard, des affaires très importantes et qui m'ont si bien pris mon temps que je n'ai pas pu télégraphier. Mais il s'arrête surpris. Il a voulu mettre un baiser sur le front de sa femme et Henriette a brusquement rejeté la tête en arrière. Qu'as-tu donc? Dit-il. Alors seulement, il remarque son trouble, son étrange pâleur. Recevoir une caresse de cet homme, après ce qu'elle a vu cette nuit, c'était plus que l'en supporterait ses forces. Cependant, il fallait feindre. Oh, rien, dit-elle, je n'ai rien. Pourquoi donc? Et l'âme soulevée par l'horreur qu'elle éprouvait, elle reçut le baiser de son mari. Un instant inquiet, celui-ci se rassura. Et gaiement. Hier, quand je suis entré, j'ai frappé à votre porte, madame, mais vous n'avez pas répondu. Vous dormiez. Ah, il y a 7 ou 8 ans, j'aurais été attendu, et bien plus tard encore. C'est qu'il y a 7 ou 8 ans, j'étais aimé, tandis qu'aujourd'hui, qui sait si on m'aime toujours? Voilà que cet homme allait parler d'amour maintenant. Et elle allait être obligée de l'écouter et de lui répondre. Il la contempla longuement avec tristesse. Puis, tout à coup, Henriette, dit-il, aujourd'hui plus que tout autre jour, plus que jamais, j'ai besoin de t'entendre me répéter que tu m'aimes autant qu'autrefois et que tu m'aimeras toujours, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il l'avait dit. Elle gardait le silence. Sa gorge était serrée. Que de fois pourtant elle lui avait dit « Je t'aime » à cet homme. Tel qu'il était, avec sa nature abrupte et puissante, sa noire figure de forgeron, car il avait commencé ouvrier, elle l'avait ardemment aimé. Comme elle tombait de haut et quelle lourde chute où elle se brisait. Eh bien, dit-il pour la seconde fois, mais que se passe-t-il donc? Et qu'est-ce que tu as? Serais-tu malade? Je te trouve pâle et fatigué. Pourquoi, n'oses-tu me regarder? T'ai-je fait du chagrin sans le vouloir? Me gardes-tu rancune pour t'avoir inquiété hier? Enfin, parle! Un moment, elle se redressa pour tout dire, pour l'accuser, pour le chasser, pour lui raconter la nuit terrible, mais elle n'osa. Mieux valait qu'il ne se doutât pas, le malheureux, que son crime avait eu pour témoin et sa fille et sa femme. Mieux valait paraître ne rien savoir afin de ne pas devenir complice. Sa fille était là, dont elle sentait peser le regard. Elle avait dit à Suzanne, pour sauver le père, si l'injustice l'accusait, « Tu n'auras rien vu, tu n'auras rien entendu. » Elle voulut montrer à l'enfant comment il fallait feindre et mentir. « Mais qu'as-tu fait pour que je ne t'aime plus? Mais je t'aime. Qu'ai-je fait pour que tu en doutes? » Telle était la préoccupation de Roger, qu'il se contenta de cette parole et ne remarqua ni l'émotion de sa femme, ni son regard épouvanté. Il courut à Suzanne, qui pendant cette scène n'avait pas bougé, assise sur le bord d'une chaise. Il l'enleva dans ses bras joyeusement, comme il faisait tous les jours, et la traitant tout à coup comme une étrangère. Mademoiselle, je dépose à vos petits pieds tout mon respect. Oserais-je vous demander des nouvelles de votre santé? Vous êtes un peu pâlotte ce matin. C'est ma faute. Vous vous serez couché trop tard hier. Excusez-moi, mademoiselle, une autre fois, je vous promets d'être plus exact. Mais comme vous êtes sérieuse, auriez-vous été grondée par votre vilaine maman? Non, mais seriez-vous malade? Non plus. On me l'aurait déjà dit. Ah, je devine. Mademoiselle ne veut plus rire parce que depuis hier, à 5 heures du soir, elle a 7 ans. Mademoiselle est une grande personne et fait la dédaigneuse avec son papa. Ce n'est pas encore cela. Ah, attendez donc, cette fois j'y suis. Mademoiselle a sans doute quelque chose à me dire et repasse un petit compliment dans son esprit. Allons, j'écoute. Il reposa Suzanne par terre, car en jouant il l'avait tenue au-dessus de sa tête, et il attendit. Suzanne se taisait. Il insista sur le même ton de plaisanterie tendre. « Mademoiselle aurait-elle déjà oublié sa leçon ?» Et l'enfant comprit qu'il fallait mentir, comme avait menti la mère tout à l'heure. Et lentement, les yeux baissés, d'une voix grave, profonde, qui fit tressaillir Roger comme s'il l'entendait pour la première fois, « Père, je t'aime depuis 7 ans, je t'aime autant que maman. » Je sais que tu consacres ta vie à préparer la mienne et que tu te fatigues pour que je sois heureuse plus tard. Mais, père chéri, je ne suis jamais si heureuse que lorsque tu m'embrasses. Je sais que tu es indulgent pour moi et tous les jours je t'aime davantage parce que tous les jours je vois combien tu es bon. Si je t'ai fait... Elle s'arrêta soudain. Elle porta les mains à sa gorge, regarda un moment son père avec une frayeur indicible, et tout à coup cria « Maman, maman !» Et elle fut reprise de convulsions, la face rouge, les yeux retournés. Henriette la porta sur la chaise pendant que Roger murmurait « Oh, c'est singulier, je vais envoyer Victoire chercher le médecin. » « Non, c'est inutile, » fit Henriette d'une voix brève, craignant que le médecin devinât la cause secrète de cet état nerveux. La Roque enveloppa la mère et la fille d'un regard soupçonneux. Cependant, la petite s'étant calmée, Roger songea à partir. « Peut-être rentrerai-je encore très tard, » dit-il, « ne m'attendez pas. » Il resta un moment devant sa femme comme s'il avait voulu lui parler, puis sortit, sans ajouter un mot. Et il y avait une demi-heure à peine qu'il n'était plus là, que dans la rue, en bas de la maison, des gens accouraient. La mère d'Ondaine, le surnom d'une bonne vieille très connue de Ville d'Avray et qui s'occupait du ménage de la Rouette, la mère d'Ondaine, à son heure habituelle, s'était présentée à la maison. Elle avait été surprise en montant de trouver toutes les portes ouvertes, mais elle s'était dit que, sans doute, son client avait été plus matinal ce jour-là et devait se promener aux environs. Quand elle eut balayé et épousseté, elle voulut faire la chambre de la Rouette. Mais là, elle resta sur le seuil, les yeux écarquillés et n'osant avancer. Le secrétaire mis au pillage, les chaises et la table renversées, tout indiquait une lutte, et le cadavre de la Rouette raide, la poitrine trouée d'une balle, accusait hautement le meurtre et non un suicide. Elle se pencha sur le corps de la Rouette et constata bien vite que ce n'était plus qu'un cadavre, que tous les soins seraient inutiles. Elle sortit en toute hâte et courut à la gendarmerie, en ne faisant pas faute de raconter le long du chemin à tous ceux qu'elle rencontrait ce qu'elle venait de découvrir. Le brigadier de gendarmerie, après une première constatation du crime, télégraphia au parquet de Seine-et-Oise. Une heure après, arriva M. Lacroix, le commissaire de police de Versailles, qui lui-même en chemin avait requis le docteur Martineau de Ville d'Avray pour les constatations médico-légales. Les deux hommes et la femme de ménage entrèrent dans la maison pendant que, dans la rue, les attroupements augmentaient. Monsieur Lacroix, un petit homme rose et blond, aux yeux bleus pâles, portant lunettes, dressa un procès-verbal de constatation minutieuse. Le crime était évident, et ce qui paraissait de la même évidence, c'est qu'il avait eu le vol pour mobile. Il interrogea la mère d'Ondaine, mais celle-ci ne put fournir de renseignements. L'Arouette, d'après la mère d'Ondaine, était un vieux maniaque, silencieux et avare. Il habitait Ville-d'Avray depuis une huitaine de jours seulement. Elle supposait qu'il jouait à la bourse d'après quelques mots qu'elle lui avait entendu dire par-ci par-là. Il s'en allait le matin et revenait le soir. Dimanche seulement, il resta chez lui, alors c'était elle qui avait fait son déjeuner, son dîner. Monsieur Lacroix commença la perquisition. Pendant cela, le docteur Martineau avait examiné l'Arouette. Les deux hommes restaient seuls. Le docteur donna son avis. « La victime s'est défendue, dit-il. On a d'abord essayé de l'étrangler. Voyez là les traces des ongles de la main d'un homme robuste. Puis, sans doute, parce qu'il ne mourait pas assez vite, on l'a achevé d'un coup de revolver. Ce qui prouve que nous ne sommes pas en présence d'un assassin vulgaire, mais d'un homme pressé d'en finir et qui a dû perdre la tête. Car une détonation en pleine nuit, c'est bien imprudent. La maison n'est pas isolée. La villa Montalais est à deux pas. Si monsieur et madame Larocque, les domestiques, n'étaient pas couchés, ils ont certainement dû entendre ce coup de pistolet. Bon, je les interrogerai tout à l'heure. Pouvez-vous préciser à quel moment de la nuit le meurtre a été commis? Assurément, et sans crainte de me tromper. La mort remonte à une dizaine d'heures environ, c'est-à-dire qu'elle a dû arriver entre 11h30 et minuit. En outre, le meurtrier s'est servi d'un pistolet de très petit calibre, très probablement un revolver de poche. Voici la balle que je viens d'extraire et qui a atteint le cœur. La mort a été foudroyante. Et il remit à la croix un petit morceau de plomb déformé. Le commissaire de police avait fait un paquet de tous les papiers trouvés chez l'Arouette et qu'il se proposait d'étudier. « Ben, nous n'avons plus rien à faire ici, pour le moment, » dit-il. Il sortit, ferma les portes et laissa auprès de la maison un des gendarmes, puis, traversant les groupes de curieux qui encombraient la rue, il entra chez Roger Larocque. Ce fut Victoire qu'il annonça à Henriette. Celle-ci devint mortellement pâle. Elle n'eût pas été plus troublée ni plus tremblante si elle avait été elle-même coupable. Elle entra au salon comme alourdie par un invisible fardeau, les épaules courbées et pourtant résolues. Le commissaire de police la salua en souriant. « Excusez-moi, madame, de vous importuner, dit-il, mais il s'est commis cette nuit à deux pas de chez vous, presque à votre porte, un crime. Un homme a été assassiné. Le vol paraît être le mobile du meurtre. Et... « Je viens vous demander quelques renseignements. »« Ah, moi, monsieur, et quels renseignements puis-je vous donner ? J'ignore même le nom de notre voisin qui n'habite chez cette maison qu'ainsi que vous le savez sans doute que depuis 2 jours. Veuillez préciser. »« Il a été tiré cette nuit un coup de revolver dans la maison qui fait face à la vôtre. La fenêtre de la chambre où s'est commis le crime... Étant restée ouverte, elle l'est encore. Il est fort possible qu'à défaut de vous-même et de M. Larocque, quelqu'un de vos domestiques ait entendu la détonation, se soit levé, enfin mis la tête dehors et ait vu l'assassin. Cela est fort possible, en effet, monsieur. Mais à quelle heure a été commis cet assassinat? Quelques minutes avant minuit. « Oh, cela m'explique que mon mari et moi, nous n'ayons rien entendu. Je me suis couché vers 10 heures et mon mari est rentré chez lui peu de temps après. Je ne l'ai pas vu. « Monsieur Larocque est absent. Il a dû prendre le train de 9 heures pour Paris. Si Monsieur Larocque, de son côté, avait entendu quelque chose de suspect, il vous en eût parlé ce matin. » Oh, « J'en suis certaine, monsieur, et il ne m'a rien dit. Vous avez, je crois, une gentille fillette de 7 ou 8 ans. Où couche-t-elle? N'aurait-elle pas été réveillée par la détonation? Non. Elle a couché cette nuit dans mon lit. Elle a dormi jusqu'au matin. Elle avait dit cela d'une voix brève, précipitée, qui surprit l'Arkroyt. Son œil perspicace s'arrêta une seconde sur la jeune femme. Elle baissa involontairement les yeux sous ce regard. « Puis-je voir l'enfant ?» demanda M. Lacroix. Oh, « Monsieur, dit la malheureuse femme, vous pouvez assurément la voir, si vous le jugez convenable. Pourtant, Suzanne est un peu souffrante ce matin. »« Tiens, tiens, murmura le commissaire, on ne veut pas me la faire voir, cette fillette, pourquoi ?» M. Lacroix s'inclina et allait passer outre quand tout à coup, sur le seuil de la chambre, apparut l'enfant marchant, les yeux fixés sur sa mère. « Non, mère, dit-elle sans qu'on l'interrogeât, non, j'ai pu rien entendre, j'ai dormi toute la nuit, sans me réveiller. » Et des larmes jaillirent aux yeux d'Henriette. Un sanglot tordit son cœur et s'arrêta dans sa gorge. Elle se détourna et se baissant embrassa Suzanne. « Ben, il ne me reste plus qu'à interroger vos domestiques, » dit le commissaire. Madame Larocque sonna aussitôt. Victoire entra. « Amenez ici la cuisinière et le cocher, remontez avec eux. » Un instant après, tous les trois étaient là. Le cocher et la cuisinière avaient leur mansarde sur le jardin. Ils déclarèrent n'avoir rien entendu. Il s'était couché vers 10 heures et avait dormi tout d'une traite jusqu'au matin. C'était par les gens de la rue, quelques instants auparavant, qu'ils avaient appris l'assassinat. Lacroix leur fit signe de se retirer et ils obéirent. Et comme Victoire s'empressait de les suivre, le commissaire de police la rappela. « Pardon, ma fille, un mot, je vous prie. » Je vais vous répéter un peu brièvement les questions que j'ai déjà faites à vos camarades. À quelle heure vous êtes-vous couché ? Monsieur, balbutia Victoire. Elle regardait sa maîtresse avec une telle persistance qu'il était visible qu'elle attendait d'elle un geste, un mot. Monsieur Lacroix se mit entre elles, sans paraître y prendre garde. « Répondez, ma fille, et ne craignez pas de dire la vérité. »«
Je me suis couché très tard, plus tard que d'habitude. Madame a dû vous le dire. »«
Et pourquoi, hier, plus tard que les autres jours ?»«
Nous attendions monsieur, qui n'est rentré que passé minuit. »«
Vous ne l'avez pas attendu jusque-là ?»
« Oh, si, jusqu'à minuit, à peu près, avec madame et mademoiselle. »«
Vous voulez dire jusqu'à 10 heures ?»«
Ah non, pas, minuit. »« À 11h30, j'étais dans la chambre de madame qui m'avait sonné pour déshabiller mademoiselle Suzanne. » Monsieur Lacroix fronça le sourcil et garda un moment le silence.
« Vous êtes bien sûr de l'heure ?»
Pardiez, monsieur, puisqu'on vous le dit.
Mais pourquoi Madame Larocque avait-elle prétendu s'être couchée à 10 heures?
Pourquoi avait-elle prétendu que son mari était rentré quelques minutes après? Mais dans quel but, dans quel intérêt avait-elle menti?
Ainsi donc, reprit-il, vous vous trouviez vers 11h30 dans la chambre de Madame Larocque. Cette heure coïncide avec celle du crime. Un coup de feu a été tiré. L'avez-vous entendu ?
Oh, parfaitement. J'en ai même fait observation, madame. Mais madame, qui pourtant était au balcon, n'a rien entendu à ce qu'elle m'a dit.
Et vous n'êtes pas sorti. Vous n'avez rien remarqué de suspect.
Rien.
Est-ce tout ce que vous avez à me dire ?
« Oui, monsieur, je ne sais rien de plus, » dit-elle hésitante.
« Je vous remercie, vous pouvez vous retirer. »
Mais au moment où elle s'éloignait, il lui glissa deux mots à l'oreille. « Soyez dans 1 heure à la mairie, où je vous attendrai. » Il la vit se troubler et pâlir. Il pensa, « Elle mentait. Elle sait autre chose, elle parlera. » Victoire sortit. Lacroix prit un air riant et s'adressa à Henriette. « Je comprends votre répugnance à me dire la vérité, » dit-il gaiement. « Je ne vous en parle pas trop de me l'avoir déguisé, afin de vous épargner l'obligation déplaisante d'aller témoigner en cour d'assises. Cependant, madame, la chose est grave et mérite que vous y réfléchissiez. Monsieur, ah, ne me dites pas que je parle un langage que vous ne comprenez point. Non, je suis très clair et vous m'entendez parfaitement. Vous vous êtes fait la réflexion suivante. Si je ne dis rien, la justice n'aura pas besoin de mon témoignage. Je m'épargne bien des ennuis en me taisant. C'est vrai. S'il ne s'agissait que d'une vétille, je n'insisterais pas, mais il s'agit d'un assassinat. Encore une fois, monsieur, permettez, madame, je n'ai pas fini. Vous avez prétendu, il n'y a qu'un instant, que vous étiez au lit à 10 heures et que vous vous étiez endormi tout de suite. Eh bien, pardonnez-moi, car je vais être brutal. Vous avez fait là un mensonge. Jusqu'à 1 minuit, vous n'étiez pas couché, et votre petite fille elle-même non plus que vous. Je vous assure, monsieur, fit Henriette, dont le cœur était serré, ne niez pas. C'est votre femme de chambre qui l'affirme. Elle se trompe, n'est-ce pas plutôt vous, de bonne foi? Insinua le commissaire, qui n'était pas sans remarquer l'émotion de la jeune femme. C'est possible, après tout, car je n'ai pas regardé l'heure, et il était peut-être plus tard que je ne l'ai dit. Est-il vrai que Victoire ait appelé votre attention sur ce coup de pistolet presque tiré sous vos fers? Je ne me rappelle pas. Et vous affirmez de nouveau n'avoir rien entendu, bien qu'alors et malgré leur avancée, vous fussiez au balcon? Monsieur le commissaire, dit Henriette, nerveuse et qui se sentait poussée à bout, permettez-moi de vous faire remarquer que vous m'interrogez depuis déjà longtemps et que vous n'y mettriez pas plus d'âpreté et d'animation si j'étais complice du crime. Il est une juste mesure que je vous prie de ne pas dépasser. Je vous ai dit ce que je devais vous dire. Vos questions et vos insinuations me fatiguent et m'humilient. S'il vous plaît, restons-en là. Je cherche à m'éclairer, madame, dit Lacroix avec beaucoup de douceur, et à m'entourer de tous les témoignages qui peuvent former ma conviction. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même de mon insistance. Et vous me rendrez justice en reconnaissant que je ne me suis pas écarté des bornes du plus profond respect. Aussi bien, depuis quelques minutes, je m'aperçois que vous paraissiez profondément ému. Moi, monsieur, non, fatigué, rien de plus. Il salua froidement, mais avec politesse. Il est parti, et dans le salon, Henriette, debout, reste immobile, la tête baissée. Comment échapper à cette menace incessante de la justice qui va peser sur elle? Car bientôt on la pressera de questions. On se doutera peut-être qu'elle a été témoin du meurtre. On exigera qu'elle parle, on l'entourera de pièges, et elle vivra au milieu de perpétuelles angoisses. Oui, sans doute, les ruses, elle les déjouera, les pièges, elle les évitera. Mais en sera-t-il de même de Suzanne? L'enfant, si on la sépare à dessein de sa mère, résistera-t-elle aux obsessions, aux menaces, aux prières, aux mensonges? Ce n'est qu'une enfant. Elle hésitera, se troublera, elle pleurera, elle parlera peut-être. Et, chose abominable, ce sera pour accuser son père.